Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Quasiment tous les instituts, les uns après les autres, commencent à réviser à la baisse leurs perspectives de croissance mondiale. Alors là, on a eu une feuille de route de l'OCDE. J'aime bien quand l'OCDE donne des recommandations. Comment faire pour doper la croissance potentielle ? Il faut travailler. Il faut plus d'offres, donc plus de production. Il faut aller vers plus de concurrence et éviter le protectionnisme. Voilà en substance ce que nous dit l'OCDE. C'est un rapport qui a été remis hier par deux députés. J'ai envie d'y croire cette fois-ci, au choc de simplification. Donc deux députés, l'un Renaissance, l'autre LR, ont remis un texte destiné à réaliser 15 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030 avec toute une série de mesures de simplification. Et ça nous amènera d'ailleurs directement à notre baromètre Odoxa, JP Challenge BFM Business, qui justement, eh bien ce mois-ci, a essayé de sonder l'opinion sur sa relation à l'administration et aux démarches administratives. On dira un mot de la loi France Travail qui a été présentée hier. En fait, d'ailleurs, c'est la loi Plein Emploi. Et est-ce que justement ce texte est susceptible de nous ramener vers le plein emploi, on va dire vers les 5% de chômage. J'aimerais bien aussi qu'on dise encore un mot de cette semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours qui visiblement fait pas mal d'émules chez les salariés et pas simplement que chez les jeunes. Maya Bakash-Bovalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Télécom Paris, membre du Cercle des économistes, et vous avez publié L'économie des plateformes aux éditions La Découverte. On va en dire un mot dans un instant. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Odoxa, donc pour le baromètre Odoxa AJP, sur les démarches administratives. L'économie des plateformes, quelle est l'idée, Maya Bakash-Bovalet ?
L'idée qu'on a eue avec mon co-auteur, donc Marc Bourreau, c'était de rendre compte, en fait, dans un manuel en français, de la réalité de l'économie numérique d'aujourd'hui. Cette réalité, c'est quoi ? C'est l'existence de plateformes, donc de nouveaux acteurs, qui, en fait, mettent en évidence ce qu'on appelle les effets réseau, c'est-à-dire le fait que votre participation à un marché dépend très étroitement du nombre d'autres participants à ce marché, que ce soit des participants qui vous ressemblent, d'autres consommateurs, mais aussi des participants du côté de l'offre. Donc ces effets de réseau qu'on appelle internes et externes, c'est vraiment, ça révolutionne en fait à la fois le modèle d'affaires des entreprises et la manière de les réguler. Et donc on a voulu faire un livre très complet qui part des modèles d'affaires, de la réalité, de la tarification par exemple de ces plateformes, jusqu'aux exigences ou nécessités de régulation de ces plateformes. Et on sait tout ce que fait aujourd'hui la Commission européenne sur le sujet, avec par exemple le DMA, le DSA, etc.
Ça sont les textes de Thierry Breton, oui. Les textes portés par Thierry Breton,
mais pas que. Et donc, voilà, c'était un ouvrage très à destination des étudiants, parce qu'on voulait vraiment former en français à cette nouvelle économie, et on est ravis d'avoir fait ce travail.
On se désespère un peu de voir que systématiquement, en Europe, on a tendance à réguler ce que font les autres, en fait.
Alors, la difficulté...
C'est un peu le cas avec l'intelligence artificielle, par exemple.
Hein. Alors, la difficulté dans le cas des plateformes était qu'effectivement, ce qu'on appelle les GAFAM, les grandes plateformes structurantes ou gatekeepers du marché, sont... en particulier américaine. Donc il avait aussi également effectivement un sujet de souveraineté numérique dans ces questions-là.
Est-ce que vous achetez, Mathieu Plane, la potion de l'OCDE ? Je trouve que c'est frappé du bon sens. Il faut stimuler l'offre, il faut faire travailler plus de monde, il faut plus de concurrence, il faut éviter le protectionnisme. On a l'impression que
disons que c'est pas vraiment une recette nouvelle.
Hein. Non, elle est pas nouvelle. Mais non, mais justement, comme je dis que c'est frappé du
bon sens. Le monde a un peu changé quand même, mais bon. Non, je t'ai frappé du bon sens. Oui, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a déjà sur la table, qui sont notamment les enjeux autour de la croissance, mais il y a aussi la question de la croissance verte, qui devient quand même un enjeu majeur.
Vous mettez encore le mot croissance devant vert.
Oui, parce que il y a quand même le rapport Pisani-Ferry-Mafous, quoi, qui essaye de réconcilier les deux, mais on voit que ça décide des besoins d'investissement très forts. Est-ce que c'est compatible avec des forts gains de productivité ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'efficacité, est-ce que c'est de l'efficacité énergétique ou c'est de l'efficacité, on va dire, en termes de rentabilité ? On est face à un choc aussi sur le vieillissement des populations. Donc, effectivement, se pose la question, y compris comment intégrer plus de personnes dans l'emploi. Et puis, sur la question de la mondialisation, c'est vrai qu'on a un retour du protectionnisme, mais j'ai l'impression que face à des situations qui sont quand même très difficiles, face à l'industrie, à la désindustrialisation, face à des questions géostratégiques, face à l'énergie, il y a une forme de repli, effectivement. Effectivement, c'est assez logique que l'OCDE plaide contre. Maintenant, c'est comment on met en œuvre tout ça. Et j'allais dire, c'est quand même un monde très différent, un monde avec une croissance potentielle très faible ou un monde avec une croissance potentielle, par exemple, à 3%. Hein.
C'est un monde très différent, oui.
Très différent. Ah, et donc, ça pose la question, effectivement, de la répartition des richesses, ça pose la question du financement des modèles sociaux, du financement de la transition. Donc, c'est vrai que ça pose plein de questions. Maintenant, effectivement, ces remèdes-là, on peut penser plus ou moins du bon sens, en fait, ne sont pas si facilement applicables aujourd'hui dans le nouveau schéma qu'on connaît. Quand vous parlez de la politique industrielle, typiquement, quand vous faites l'IRA, hein, qui a quand même des vocations aussi de transition écologique, c'est une forme de protectionnisme.
Mais c'est du protectionnisme.
Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Donc ça, c'est des vraies questions. La réponse européenne est en train de se construire aussi autour de ça. Voilà, on a un nouveau monde où le multilatéralisme, comme on l'a connu, est certainement différent. Mais avec des enjeux, effectivement, sur les questions d'évolution de productivité, de stagnation séculaire, de vieillissement de la population, de répartition des richesses, qui sont, à mon avis, très forts. Et on ne pourra pas juste dire qu'il faut faire des réformes structurelles et augmenter la concurrence.
Là où je vous suis, c'est qu'effectivement, le monde tel qu'il se dessine fait que les doctrines anciennes ne sont pas forcément applicables de la même manière. Ça vous fait réagir,
Maria? Oui, parce que je trouve intéressant que ce rapport, en fait, abandonne l'idée de productivité. Enfin, il faut rappeler que la croissance séculaire, hein, donc depuis la révolution industrielle, est portée par le progrès technique. Et là, on a un rapport qui nous dit, en fait, non, la croissance de demain, ce n'est pas le progrès technique. Alors qu'on est, justement, vous l'avez évoqué, dans la révolution IA, on est dans la révolution numérique, on nous parle de biotechnologie, etc. Et donc, c'est un peu étonnant que l'OCDE n'ait pas porté aussi ce message, un peu d'espoir, en fait, hein, sur les gains de productivité possibles qui pourraient porter la croissance. Et donc, c'est une analyse un peu effectivement, de stagnation, de dire, ben, puisqu'on ne peut pas faire mieux, il faut faire plus, et donc, on va aller chercher des gisements d'emploi chez des acteurs qui n'étaient pas, rentrés sur le marché du travail.
Gaël Sliman.
Dans les enseignements clés que vous ressortez de ce rapport, on est, et je rejoins ce que disait Mathieu Plane, on est un peu à front renversé avec ce que proposent les politiques aujourd'hui et ce qu'attendent les opinions publiques. Si le remède, c'est plus de concurrence à un moment où, justement, à peu près partout dans le monde, pas qu'en Europe, les gens nous disent on a été trop loin, on a été complètement dingue, on s'est complètement plus de libre-échange. On a laissé la Chine fabriquer les matériaux qui sont vitaux pour nous, on l'a vu au moment du Covid. Donc ce que demandent les opinions publiques, c'est exactement le contraire.
Ah ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, il y a une demande de sécurité.
Plus de sécurité, plus de protection, plus de contrôle, quitte à produire et échanger moins de richesses. C'est exactement ça que demandent aujourd'hui les peuples en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde. Avec le sentiment justement qu'en s'aveuglant sur le libre-échange et en étant un petit peu en prenant la liberté du renard dans le poulailler, en quelque sorte, dans le rapport entre la Chine et l'Union européenne, c'est-à-dire sur les droits de douane, sur les conditions qui sont faites dans les échanges commerciaux entre ces pays, on a été bien stupides. Donc je suis étonné que l'OCDE, moi, prône ça. Vous dites c'est l'évidence. Bah, oui. Ce qui est évident, ce qui semble évident, c'est qu'il prône toujours la même chose en réalité.
C'est assez vrai.
Que là, cette fois, non seulement les populations, mais ça fait un moment que c'était le cas, mais y compris les politiques, et y compris les politiques très libéraux. Je veux dire, Emmanuel Macron, la droite en France, LR, je veux dire, ne sont pas suspects d'être des crypto-communistes. Et pourtant, eux aussi nous disent maintenant, on va essayer quand même de mieux contrôler, mieux vérifier, réindustrialiser le pays. Et c'est plutôt ça les enjeux qu'attendent les populations.
Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu?
Oui, non.
L'idée qu'effectivement, les politiques et les opinions ne sont plus...
J'ai l'impression, et l'OCDE fait quand même par ailleurs des très bons travaux, mais ça fait un peu un catalogue qu'on ressort, quoi. Qui est effectivement plus d'échanges, parce qu'on dit le commerce mondial a permis la croissance... Plus de productivité, plus de concurrence, et c'est vrai que c'est un peu aux antipodes, ce que disait Gaël là, aux antipodes de ce qu'est la demande économique ou sociale aujourd'hui, ou la politique qu'on est, y compris sur des gens qui sont pas des protectionnistes. Prenons le cas d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il essaye de mettre en avant une forme de protectionnisme européen. Attends, j'entends bien de protectionnisme européen.
On essaye de lui donner une couleur européenne, absolument.
Justement pour réagir à l'IRA. Donc, et puis il y a toute la question des besoins d'investissement, c'est-à-dire effectivement l'investissement à réaliser est massif. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mis en avant dans cette chose-là, du financement de cet investissement, de comment le faire. Et puis après, il y a quand même une question là qui est fondamentale, qui rejoint la question des plateformes et de l'intelligence artificielle. C'est effectivement les gains de productivité. On est dans un paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit le développement du numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, la numérisation un peu globale, le digital.
Et on se demande pourquoi on n'a pas les retombées en termes de gains de productivité.
Les sont à peu près l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les chiffres de l'emploi sont sortis ce matin pour la France. On a créé 90 000 emplois au premier trimestre. Avec 0,2% de croissance.
C'est pour une mauvaise raison, donc. C'est parce qu'on a absence de gains de productivité.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez les chiffres depuis fin 2019 à aujourd'hui, hein, donc un peu plus de 3 ans depuis le début de la crise, le PIB, il est 1,3% au-dessus de son niveau d'avant-crise. Le nombre d'emplois créés, c'est 6%. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'emplois, beaucoup plus d'emplois, pour créer la même valeur ajoutée. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a perdu en efficacité. Alors, on essaye de le comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il y a certainement des gisements de productivité, mais on l'a pas su encore les exploiter. Ils sont peut-être devant nous. D'autres disent, bah non, en fait, on va vivre dans un monde avec une productivité très faible. Les gains vont être relativement faibles. Donc, c'est vrai que ce chantier est quand même majeur parce qu'il est déterminant.
On va sortir la stagnation séculaire, si on compte.
On va commencer à la ressortir et ce chantier est déterminant parce que quand vous voyez, par exemple, l'enjeu sur les retraites où on se battait à la virgule près sur le nombre de millions qui manquaient en 2030, c'était sur un scénario de gain de productivité de 1% par an.
Oui, absolument. Absolument.
Et aujourd'hui, on en est quand même très loin. On perd en productivité chaque trimestre. Donc c'est très bien pour l'emploi, mais ça pose la question effectivement de l'efficacité de l'organisation du travail, du développement de cette intelligence artificielle, et est-ce qu'effectivement elle va permettre des réels gains de productivité? En tout cas, aujourd'hui, macroéconomiquement, on ne les voit pas.
Dans le nouveau monde, justement, Maya Bakash-Beauvallet, il y a ce rapport de Rexecode qui a été publié hier. Il est en train de nous dire que c'est très bien la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en Europe, puisque c'est le nom exact qu'il porte, mais qu'en réalité, eh bien, ça va attaquer la compétitivité de nos entreprises, abaisser la valeur ajoutée des secteurs concernés, hein, acier, aluminium, ciment, engrais, hydrogène, électricité, mais aussi les boulons et les vis, et qu'à l'arrivée, ça va faire monter les prix. C'est ça le nouveau monde. Vous achetez ?
Non, j'achète pas. Ah j'achète pas parce que...
C'est pour ça que le croissance verte, c'est parfois un petit peu dérangeant. Comme
j'achète
ça.
Pas le rapport de Rexecode parce qu'il est alarmiste, je trouve, pas au bon moment. On a besoin d'espoir aujourd'hui, on a besoin de voir la transition énergétique et de voir la transition pour changer nos modes d'organisation. Et oui, ça va coûter. C'est ce que dit le rapport Pisani-Ferry, Selma Mahfouz, effectivement, que Mathieu venait de citer. Il y a des structurations à faire. C'est d'autant plus coûteux qu'on l'a pas encore fait. Et donc, il va falloir effectivement grimper la pente un peu plus vite que prévu. Et donc, oui, ça coûte. Ça coûte, mais... À l'issue de ça, je crois qu'on a plus tellement de solutions. Il faut le faire. Il faut le faire. Et à l'issue de ça, on espère effectivement une croissance... verte.
C'est ce que dit le rapport, c'est la fameuse courbe en J. Voilà.
Mais ceci dit, pour quand même mettre un bémol à ma critique du rapport, il a au moins le mérite de rappeler qu'effectivement, on ne peut pas faire une concurrence, on ne peut pas être en libre-échange avec des pays, ça on le dit déjà depuis plusieurs années, qui n'ont pas les mêmes critères environnementaux, qualitatifs, sociaux que nous. On a déjà fait beaucoup de choses au niveau européen pour cette forme d'harmonisation et un protectionnisme au niveau européen, mais un libre-échange entre les pays qui respectent ces règles. Mais il y a encore beaucoup à faire dans l'implémentation de ça. Mais je voudrais juste, avant quand même, fermer complètement la parenthèse de la productivité, rappeler que c'est vrai, hein, je rejoins ce que dit Mathieu, on les voit pas, les gains de productivité aujourd'hui, et du coup on se dit le gâteau va devenir de plus en plus petit, ou en tout cas le même, et le partage va être encore plus difficile. En réalité, quand on creuse un peu les données, on voit qu'en fait, quand il y a de la recherche et développement dans les entreprises qui sont vraiment en pointe technologique, dans certains secteurs clés, en fait, on les voit les gains de productivité. Et peut-être que ce souci sur la réindustrialisation en Europe, c'est de penser aussi les nouvelles industries qui seront porteuses de réindustrialisation. Et donc voir l'industrialisation comme les anciennes industries qu'on protège, je crois que c'est pas la bonne approche. Il faut au contraire aller dans ces nouvelles technologies, dans ces technologies vertes, dans les voitures électriques, dans tout un tas de développement d'internet des objets, de robotisation qui vont permettre à la fois des gains de productivité et puis des gains de productivité soutenables.
Bien. L'année 2022 en quatre chiffres.
Sur les quotas carbone et sur le rapport de...
Ah, alors allez-y, si vous voulez.
C'est un point important.
Je m'apprêtais à passer à autre chose, mais allez-y.
Non, bien sûr
que c'est un point important.
Parce que ce qui... Alors j'ai pas lu en détail le rapport de Rexecode. Ce qu'ils mettent quand même assez en avant, c'est justement le manque d'efficacité de la contribution climat aux frontières. En gros, qui va taxer une toute petite partie des importations. En réalité, je crois qu'il parle de l'ordre de... Par exemple, sur l'ensemble de la France, on a à peu près 500 milliards d'importations. Il n'y en aurait que 7 milliards qui serait touché. Donc c'est tout petit en réalité.
Mais c'est pas alors, vraiment là où ils ont des craintes.
Oui, mais alors c'est
sur l'arrêt des quotas gratuits.
Ben voilà, mais parce que la contrepartie de la contribution climat aux frontières, c'est de faire payer les quotas carbone oui. pour jouer à une sorte d'équité écologique en disant effectivement on va taxer les produits importés carbonés et en contrepartie vous payez un quota carbone et donc ça va créer une espèce de rééquilibrage de compétitivité on va dire énergétique. Sauf que les quotas carbone portent sur beaucoup plus de secteurs industriels que en fait la contribution climat aux frontières. Et donc ce que dit Rex Ecot, c'est qu'en réalité beaucoup plus de secteurs vont être touchés par les quotas carbone que les secteurs qui vont être pénalisés dans les importations par la contribution.
Oui, parce que donc, effectivement, j'ai cité les six secteurs exclusifs pour l'instant qui sont concernés par cette.
Parce que c'est vrai que cette contribution climat aux frontières, même si elle a une bonne intention, en fait, elle porte essentiellement sur des produits peu transformés.
Quasiment pas transformés.
Et ça, c'est un problème parce qu'en réalité, c'est le contenu, par exemple, dans une automobile, dans un smartphone, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, qui est quand même important. En réalité, dans le contenu énergétique, et pas juste de dire on va taxer le secteur du ciment, de l'acier, etc. Or, la contribution, le quota carbone, va jouer sur les filières en aval, y compris sur l'automobile,
absolument,
sur la construction, etc. Et donc, pour l'Europe, ça va être un défi majeur sur la question de l'industrialisation, et notamment y compris sur le changement climatique. C'est-à-dire, au fond, on a un coût de l'énergie qui est beaucoup plus élevé que dans les autres zones du monde, parce qu'on produit plus d'énergie fossile ou très peu. Alors que, vous voyez, les Américains ou les autres zones du monde n'ont pas accès à des mêmes prix pour ces matières premières. Et en plus, effectivement, avec la stratégie aujourd'hui, le coût de production va beaucoup augmenter pour des secteurs industriels qui exportent. Et donc, il y aura un problème de compétitivité assez forte. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir réindustrialiser dans ces conditions-là, quoi. C'est pas dire il faut pas faire la transition.
C'est
comment maintenir nos industries tout en étant compétitifs alors qu'on a un besoin très fort de ces industries-là.
Oui, et ben, est-ce qu'effectivement, vous imaginez, acier taxé, boulon taxé, vis taxé, voiture, produit fini non taxé?
Ah oui. Là, ça va pas du tout.
C'est un vrai sujet quand même. Bon, je vous fais mon année 2022 encore quatre chiffres. 43, 45, 1786, 8747. 43 lois, 45 ordonnances, 1786 décrets, 8747 arrêtés. C'est quand même délirant. C'est quand même délirant. Et donc, il y a deux députés, alors ça porte pas exclusivement sur la folie législative, mais qui remettent aujourd'hui un rapport pour la simplification, contre le harcèlement textuel et surtout pour redonner de l'air, notamment aux collectivités locales. Et alors, il se trouve que ça tombe pile poil le jour du baromètre Odoxa AJP, Challenge BFM Business, Gaël Simane, et justement, ce mois-ci, c'est la réaction de l'opinion par rapport aux démarches administratives qui a retenu votre attention.
Oui, on s'est intéressé à ça, la simplification. Vous savez, ça fait le choc de simplification, ça fait des années qu'on en parle, et on a voulu voir dans le quotidien des Français quelle était leur perception. Alors, ce que vous venez de dire en quelques chiffres, Nicolas, est ressenti par les Français depuis pas mal de temps. On a juste 90% des Français qui nous disent « il y a trop de démarches administratives en France ». Et vous savez, dans les sondages, on teste souvent des échelles allant de la moins extrême à la plus extrême, et ils sont 1 sur 2, les Français, 50% à être sur la position la plus extrême, c'est-à-dire à ne plus en pouvoir, et ça a progressé de 8 points depuis ces deux dernières années. Donc il y a un sentiment...
Sur les plus ulcérés, quoi.
Voilà, sur les plus ulcérés. Il y a un sentiment qu'il y en a trop et que c'est de plus en plus. Et ils nous disent aussi, du coup, et les deux députés en question ont eu le nez creux, que la simplification administrative devrait être une priorité du gouvernement. Alors, la raison notamment qui explique cette inflation des textes, c'est probablement aussi l'Europe, ce dont on vient de parler sur la volonté légitime d'œuvrer à la transition énergétique. Tout ça, ça fabrique de plus en plus de normes. Et on va en dire un mot après, mais on a 84% des Français qui considèrent qu'il y a de plus en plus de nouvelles normes impliquant plus de paperasse et de démarches administratives. Et tout ça, alors qu'il y a quand même un point que les gens ont ressenti, pour les deux tiers d'entre eux, qui est que, et on a tous vécu, depuis ces 4, 5, voire 10 dernières années, on a quand même, grâce aux nouvelles technologies, une simplification de fait dans les démarches que l'on peut faire.
Ça, c'est très juste quand même.
Quand on doit...
l'administration, ça existe pas partout,
Quand on prend les impôts, par exemple, là c'est moi qui parle, c'est plus sondage, mais quand on prend les impôts, on peut dire que quand même, depuis ces dernières années, ça fait peut-être pas plaisir de payer ses impôts, mais en tout cas, c'est fait de manière extrêmement plus fluide.
J'ai remarqué d'ailleurs que quand il s'agit de payer, c'est très simple.
Il n'y a aucun problème.
Ça fonctionne très bien.
C'est mieux que de retrouver tous les papiers.
On marque une pause. Dans un instant, on se retrouve donc avec les autres questions qui ont été posées. Puis vous me direz quand même si vous y croyez à ce choc de simplification, parce que comme le rappelait Gaël, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, puis il y a eu François Hollande, puis il y a eu la loi Pacte. Et pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. A tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce quelque chose ? Trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Maya Bakash-Beauvalet pour le Cercle des économistes, comme chaque jeudi, elle est professeure d'économie à Télécom Paris, auteur de l'économie des plateformes, aux éditions La Découverte. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Alors, il y a un auditeur qui a été froissé en vous écoutant, Maya, il s'appelle Diesel, et il a l'impression que vous voulez laisser tomber la vieille industrie. Et lui dit, mais elle est indispensable cette industrie, regardez le nucléaire, l'automobile, on ne va pas construire des réacteurs avec de l'IoT.
Non, j'ai pas dit qu'il fallait laisser tomber la vieille industrie. Je parle des gisements de croissance de demain.
Bien compris.
Qui sont dans probablement plus dans des industries à haute valeur ajoutée ou dans des endroits où l'innovation, comme ça a été le cas par le passé, a porté le progrès technique et donc la croissance et les gains de revenus qu'on en espère.
Et parce qu'il faut toujours rappeler que le principal moteur, c'est la productivité et les gains de productivité. Voilà. On poursuit le baromètre Odoxa avec vous, Gaël Sliman, AJP Challenge BFM Business. Donc, on a bien vu qu'il y avait trop de démarches administratives, mais qu'Internet avait quand même considérablement facilité les choses. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de serfas en ligne qui sont possibles. Alors, allez, faites refaire une carte vitale sur le site d'Amélie.fr, c'est quand même super efficace.
Non, puis quand on a plus de 20 ans, on se souvient que les démarches, des impôts par exemple, étaient très compliquées. Et d'ailleurs, dans l'enquête, on a demandé aux Français quels étaient les services, que ce soit public ou privé, qui leur demandent de fournir le plus de paperasse. Alors, sans surprise, ils évoquent la mairie incluant toutes les démarches sur les papiers d'identité, par exemple, où, à mon avis, il y a là aussi pas mal de progrès à faire quand même.
Eh ben, en ce moment, c'est catastrophique.
Donc, bon, vous avez... puis ça prend du temps, et puis c'est angoissant, et puis bon... Vous avez les centres des impôts qui sont évoqués. Alors, là, ça me paraît plus discutable sur la pratique au quotidien. Peut-être pense-t-il moins, d'ailleurs, à la déclaration en ligne globale qui doit être faite. Il y a le centre de sécurité sociale. Et puis après, on a des acteurs privés, il ne faut pas les oublier. Les assurances, les banques, éventuellement aussi les mutuelles. Tout le monde nous embête avec de la paperasse. Et le choc de simplification, bon, on voit bien que l'État est le plus attendu pour le mener ou pour l'accélérer. Mais il n'est pas le seul. Et d'ailleurs, pour être chef d'entreprise, je dois dire que depuis que je le suis, un certain nombre de services clients ou fournisseurs, mais surtout clients, vous demandent maintenant de plus en plus de paperasse, y compris et surtout d'ailleurs dans des grands groupes américains où on veut se couvrir légalement et où vous devez remplir des paperasses insensées.
Il y a une dernière question qu'on regardera dans un instant où là justement, bon, la position est plus...
Un contrepoint.
Voilà. Mathieu, Maya, est-ce que vous pensez qu'un choc de simplification est imaginable en France ? Franchement.
Moi, je vais mettre un bémol. Sur l'optimisme, là, pour le coup, être un peu à fond renversé. On a fait déjà beaucoup de choses, vous avez raison, l'administration électronique, c'est formidable, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je suis quand même un peu frappée de deux choses. Un, la tentation qu'on a toujours de complexifier quand on a déjà simplifié. Oui. Et typiquement, l'impôt à la source, le retenu à la source, c'est une étape de simplification majeure qu'on a connue. En revanche, vous avez vu cette année, il y a de nouvelles informations, par exemple, qui sont demandées sur le site des impôts, par exemple, pour les propriétaire pour la résidence principale, et donc c'est à nouveau de la complexité, on se demande d'où ça vient. Bon, premier bémol. Deuxième bémol sur le numérique, Il y a des données, par exemple le baromètre du numérique, qui montrent qu'en fait, beaucoup de Français restent, il y a une minorité qui souffre un peu d'angoisse, en fait, par rapport à ces démarches numérisées. Et peut-être ce sera aussi un lien par rapport au chômage qu'on va faire tout à l'heure, mais on a besoin d'accompagnement d'une population qui pourtant est parfaitement compétente, pas nécessairement très âgée, enfin moins âgée que ce qu'on peut imaginer, mais qui est aux marges, en fait, du numérique, en tout cas qui comprend pas bien. Donc voilà, une forme d'illettrisme numérique, si vous voulez, une forme de difficulté à comprendre les démarches, les étapes, les mots de passe.
L'électronisme, je crois que
c'est l'électronisme, voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet social, politique, pour intégrer l'ensemble des Français, parce que les démarches publiques, c'est aussi la citoyenneté. Et donc, on ne peut pas se satisfaire simplement d'une numérisation qui reste adressée pas à l'ensemble des citoyens.
Et d'ailleurs, on le voit dans les résultats, vous avez raison.
90% donc répondent que ça doit être la priorité du gouvernement. Ce qui m'a frappé dans les derniers baromètres d'attractivité, notamment celui d'EY, c'est qu'on demande toujours force et faiblesse du pays. Généralement, les faiblesses, c'était le coût du travail, c'était les démarches, c'était le droit du travail, notamment. Et bien maintenant, en tête, c'est la complexité administrative. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver, Mathieu? Pourrais vous poser la même question sur est-ce qu'un jour on pourra baisser les dépenses publiques? Est-ce qu'un jour on pourra rendre plus efficaces les dépenses publiques? Est-ce qu'un jour on pourra baisser les prélèvements obligatoires? Est-ce qu'un jour on pourra réussir à simplifier
les dépenses publiques? Vrai que c'est un peu comme les rapports de l'OCDE, ils se ressemblent un peu aussi des fois là-dessus, mais c'est vrai que la simplification, on le retrouve pour chaque gouvernement, j'allais dire au moins pour chaque président, avec ses chocs de simplification. Donc c'est vrai qu'il y a des... certainement on empile des normes, les réglementations sont complexes, elles le seront peut-être plus avec les nouvelles normes environnementales aussi, hein. Potentiellement, peut-être aussi pour des bonnes raisons, mais forcément ça crée des contraintes. Il y a tous ces points de vue. Est-ce que moi je sais pas aussi historiquement comment tout ça a vraiment évolué. C'est vrai qu'on voit que la technologie aussi apporte des réponses sur la numérisation, là on parlait sur les impôts, il y a France Connect par exemple, c'est vrai que moi j'ai refait mon permis de conduire, enfin il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire aussi simplement qu'avant. Par contre, je pense qu'il se perd aussi un lien avec l'humain, y compris dans les relations. C'est vrai que quand on maîtrise bien ces technologies, c'est efficace. Par contre, on peut vite s'y perdre. Et quand ça marche pas, ça marche pas, quoi. Ouais. Et pour avoir quelqu'un au bout du fil pour vous aider dans ces cas-là, ça devient assez catastrophique. Donc, j'allais dire, il y a des gros atouts, mais il y a aussi de gros inconvénients. Et pour ceux, surtout, qui sont un peu au bord de la route, c'est pas forcément très simple. Et en même temps, c'est des gisements de productivité importants, parce qu'effectivement, vous parlez de la dépense publique. On a des contraintes budgétaires, et effectivement, ça permet aussi cette numérisation de faire des économies, quelque part. Mais en même temps, il y a cet accompagnement pour les gens qui n'y arrivent pas.
Justement, il y avait une question dans le baromètre Odoxa AJP, Gaël Sliman. Ben, je vous laisse la reprendre pour savoir quelles étaient nos relations avec les démarches et les normes de demain, on va dire.
Alors, on a même deux éléments. Une que j'ai déjà évoquée, mais je rappelle simplement. 84% des Français, je l'indiquais tout à l'heure, nous disent, et en plus, on s'en prend de plus en plus des nouvelles normes, etc., à cause des normes européennes. Et on évoquait ensemble le risque ou la quasi-certitude que les nouvelles normes environnementales, les attentes et les besoins qu'on a de ce point de vue-là, ne produisent encore plus de paperasse. Et les Français le voient bien comme ça. Mais c'est la seule exception pour laquelle une majorité de Français, et donc c'est intéressant de le souligner, nous disent... les nouvelles normes qui vont sortir, qui sont apparues en France et en Europe pour protéger l'environnement, la santé, pour favoriser l'inclusion, ces nouvelles normes-là, finalement, c'est quand même plutôt une bonne chose, même si ça provoque davantage de paperasse, entre guillemets, parce que ça va dans le bon sens, et ils sont 60% à le penser, et ceux qui, au contraire, nous disent « Non, c'est plus possible, on en a déjà trop, si vous nous en ajoutez là-dessus, ça n'ira pas », ne sont qu'une minorité de 38%. Donc ça signifie qu'il y a, en gros, une très grande lassitude, un très grand agacement par rapport à cette inflation des paperasses et des normes et de la bureaucratie, mais qu'il y a une tolérance ou une compréhension sur ce qui se produit et va se produire à l'avenir, s'agissant des nouvelles normes environnementales notamment.
C'est le métier, hein. Le métier, c'est le syndicat qui est au-dessus des ETI, qui a publié un chiffre. Il y a 400 000 normes, dit le métier, entrave l'activité des ETI pour un coût estimé à 28 milliards d'euros par an. Voilà, c'est eux qui ont sorti ça. Maya Bakash-Bovalet, comment est-ce que vous accueillez cette loi plein emploi? Est-ce que cette loi est bien nommée?
Oui, France Travail. Tout le monde a entendu mettre la France au travail. On ne peut pas le comprendre autrement que ça.
C'est une loi travailler plus, de toute façon.
C'est une loi travailler plus. Mais c'est plus une loi... D'un côté, je trouve cette loi extrêmement cohérente, en fait, avec toute la politique du gouvernement en matière d'emploi et de travail.
C'est exactement ce que je disais hier.
Voilà.
Après, je suis dubitatif sur ces résultats.
Tout à fait. Mais on peut, au moins, sur ce champ-là, trouver de la cohérence dans la politique du gouvernement depuis le début. Et cette cohérence, c'est quoi ? C'est simplement l'incitation au travail. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est le présupposé que la seule cause du chômage aujourd'hui, c'est la désincitation des travailleurs à rejoindre le marché du travail. C'est la seule explication qu'a le gouvernement du chômage. Et donc, après la réforme de l'allocation chômage, où on a, en théorie, augmenté les incitations du retour à l'emploi, ben on s'attaque en fait à l'autre aspect qui est le problème de matching. L'idée de dire, en fait, c'est l'administration, c'est les services publics qui n'arrivent pas à se faire rencontrer l'offre et la demande de travail. Et donc, on va simplifier en fusionnant, en travaillant collectif, comme l'a dit le gouvernement, les services du RSA et les services de Pôle emploi. Moi, je le vois comme ça. Donc, après avoir simplifié et incité le retour à l'emploi des travailleurs, on est en train de simplifier et d'inciter ces administratifs ou ces fonctionnaires à fluidifier le marché. Mais on passe à côté de toutes les autres sources de chômage, de toutes les difficultés de retour à l'emploi, de formation, d'insertion, etc. Et donc
de mobilité,
tout à fait. Donc tous ces aspects-là, c'est vraiment un angle mort de la politique du gouvernement en termes d'emploi. Et on ne peut qu'être pour la simplification et le travail collectif.
Vous avez dit beaucoup simplifier, je ne suis pas si sûr que ce soit si simple que ça.
Vous avez raison. Oui.
D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas dans le texte, de manière explicite, les 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA, parce qu'objectivement, personne ne sait où on va les trouver, ces heures d'activité obligatoire. Mathieu Plane.
Pardon.
Allez-y.
Non, mais 15 à 20 heures, en fait, c'est aussi un peu message politique. Hein, effectivement.
Bien sûr que c'est un message politique.
15 à 20 heures, en fait, c'est s'inscrire dans un parcours d'insertion.
Oui.
Ça peut être des ateliers, ça peut être des formations. C'est pas forcément. D'ailleurs, il y a pas forcément les emplois.
J'ai dit activité.
Activité, ça sous-entend emploi. Et c'est vrai que il y a eu cette ambiguïté, je pense, qui a été entretenue aussi hein, du conditionnement du RSA. Parce que en fait, l'objectif à la base est assez louable, qui est de dire il y a des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Et il faut essayer de les réinsérer. On peut pas les laisser sur le bord de la route, comme ce qui s'est fait sur les contrats jeunes, les contrats emploi jeunes. Avec l'extension de la garantie jeune et notamment tout ce qui se fait sur les parcours sociaux sur les jeunes, j'ai oublié, la mission locale. Voilà. La question fondamentale, c'est que d'abord, est-ce que ça suffira pour revenir au plein emploi ? La question, elle est quand même assez complexe. Alors, je ne vais pas juste m'arrêter sur des points de vue techniques, mais on parle de 5% de chômage. En fait, là, on va aller chercher des populations qui ne sont pas forcément sur le marché du travail.
On commence à entrer dans les populations les plus éloignées.
Ça peut être très bien, mais c'est des gens qui ne sont pas inscrits au chômage. Juste, je rappelle, il y a 40% des personnes au RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi.
C'est juste.
Donc, on va avoir un choc
Un choc statistique.
On peut le gérer comme on veut, le choc statistique.
Éric Heyer disait hier, mais ce sera une bonne hausse du chômage pour de bonnes raisons.
Oui, une bonne hausse du chômage, mais sauf que dans l'indicateur de chômage, le 5%, aujourd'hui, vous allez peut-être oublier qu'il y a eu ce choc-là parce qu'on a essayé de réintégrer des gens qui n'étaient pas sur le marché du travail dans le marché du travail, mais ils vont pas passer directement à l'emploi. Passer par la case chômage.
Oui, il va y avoir.
Alors peut-être qu'ils vont être en catégorie DE ou en formation et donc ils seront peut-être pas au chômage habilité. Bon, tout ça va jouer dans les
chômage au sens du Bureau international du travail. Parce que là, vous étiez un peu vite sur les catégories.
Non, en plus, il y a le Pôle emploi, il y a la catégorie A, B, C, D.
Il y a la A, la ABC, c'est globalement les gens qu'il fallait. La A, c'est la plus proche de la définition du Bureau international du travail. B et C, c'est les gens qui ont un peu travaillé ou un peu plus travaillé. Et puis après, il y a
D et E, c'est-à-dire qu'ils sont en formation, ils sont inscrits à Pôle emploi.
Voilà.
Et après, au chômage du BIT, en fait, vous pouvez être. Par exemple, aujourd'hui en France, on a près de 2 millions de personnes. Si vous leur demandez « est-ce que vous souhaitez travailler ?», elles répondent « oui », mais elles ne sont pas dans les statistiques du chômage. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont soit pas immédiatement disponibles.
Ça, c'est
Donc c'est ce qu'on appelle le halo du chômage.
Voilà, dans les différents
éléments. Donc si elles ne sont pas immédiatement disponibles dans les 15 jours, vous n'êtes pas dans le chômage, vous êtes inactif. Ou si vous ne faites pas de démarche active de recherche d'emploi. Et donc dans les personnes au RSA, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Donc ces gens-là qui sont dans l'inactivité peuvent basculer dans le chômage. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue purement statistique, ça peut gonfler
Pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, c'est qu'il y a une définition très précise du chômeur au sens du Bureau international du travail qui suppose qu'on est disponible immédiatement.
Exactement.
Qu'on a plus de 15 ans. Et
donc ça, avez... ça c'est le premier.
Je t'interromps juste pour conforter ça. C'est bien, c'est pour ça qu'il faut, qu'il faut entendre mettre la France au travail.
Oui.
Il s'agit de ramener
dans
Pôle Emploi, en fait, l'ancien Pôle Emploi, c'est tous ces Français qui, en fait, pour l'instant, ne l'étaient pas.
Voilà, et tout à fait. Et donc c'est vrai que ça, le défi est encore plus grand à ce moment-là de revenir à 5%. C'est-à-dire qu'on va remettre au travail, mais pas forcément au travail, en activité des gens qui n'étaient pas. Et donc, il va falloir leur trouver un travail. Donc ça veut dire qu'il va falloir créer beaucoup d'emplois. Du coup, deuxième point...
Espérons que les gains de productivité vont s'écrouler. Comme ça.
Alors ça posera un autre problème sur le financement des retraites à long terme. Mais bon, ça, c'est un autre point. Et le dernier point, c'est que quand vous demandez à des personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail, qu'est-ce que sont les freins à la recherche d'emploi ou même pour trouver un emploi, le premier, c'est le transport.
Et oui.
Après, vous avez le logement. Après, vous avez la garde d'enfants. Après, vous avez les questions de santé. Donc, vous voyez, c'est pas juste de la formation. Il va falloir régler des problèmes structurels qui sont effectivement sur le logement, sur le transport, sur la garde d'enfants, qui sont pas juste, on va faire une adéquation offre-demande de travail, et des gens bien formés, qui sont en plus... je suis désolé, mais quand vous êtes exclu du marché du travail depuis longtemps, c'est difficile de rentrer dans un parcours d'insertion pour faire un métier qui est en tension, etc. Donc ça va prendre du temps, c'est peut-être bien, mais même si c'est louable, c'est pas mécanique, voilà.
Gaël Sliman, par rapport à ce qu'on vient de dire.
Alors c'est très intéressant, parce qu'on est sur cette question de l'emploi, sur le paradoxe ou les ambiguïtés de ce gouvernement, ou de la perception de ce gouvernement par l'opinion. Parce que quand même, depuis 5 ans, objectivement, c'est un succès extraordinaire. Oui. Sur ce qui est, je veux dire, les résultats sur le chômage dans les catégories comptées par le Bureau international du travail, ce sont des résultats extraordinaires. Et des résultats extraordinaires à tel point que ce qui était la première préoccupation des Français dans toutes les enquêtes pendant plus de 20 ans, tous les ans, je ne savais même plus pourquoi, on posait la question, quelle est votre priorité, quelles sont les principales attentes que vous avez ? Pour la présidentielle, qu'est-ce que vous attendez en premier du prochain président ou de la prochaine présidente ? Systématiquement, vous aviez le chômage et puis après le reste. À un moment donné, il y a eu un touche-touche avec le pouvoir d'achat à l'époque Sarkozy, au moment du fameux « travailler plus pour gagner plus ». Mais sinon, ça a toujours été le chômage. Le précédent président, François Hollande, avant Emmanuel Macron, s'est fracassé sur cette question de l'inversion de la courbe du chômage. Et là, il a un succès tellement énorme qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, le chômage n'existe plus. Vous imaginez ce que je dis ? C'est-à-dire que vous testez dans les priorités des Français, vous avez le pouvoir d'achat, vous avez la sécurité, vous avez l'environnement, vous avez tout un tas de paramètres, et en deuxième rideau, vous voyez apparaître, ah tiens, c'est vrai, il y a un truc qui s'appelle le chômage. Donc c'est un formidable succès. Et deuxième élément, pour rejoindre ce que vous avez dit l'un et l'autre, il y a un objectif encore plus louable, c'est-à-dire quand on a déjà réussi pas mal sur le chômage, qu'on n'est déjà pas si loin du plein emploi. En tout cas, il est à horizon possible.
Deux points là, quand même.
Oui, mais vous rendez compte d'où on vient. Se dire, tiens, on va scorcer les choses, rendre la tâche plus compliquée et réinclure dans l'activité, dans la vie des citoyens, des gens qui en sont loin, c'est aussi formidable. Et pourtant, ça va être perçu comment ? Ça va être perçu comme ce que vous disiez il y a un instant, parce que c'est vrai que c'est la boussole de ce gouvernement. S'il y a du chômage, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas travailler. Donc, on va les inciter, mais ça signifie quoi ? On va durcir les règles qui existaient et qui vous permettaient, sur le nombre de mois où vous étiez couvert, sur la durée où vous aviez vos indemnités chômage, on va durcir les choses pour vous inciter à aller bosser. Et ça fonctionne plutôt d'ailleurs. Donc on va avoir, du point de vue de l'opinion, ce sentiment-là, et on va avoir aussi des attentes qui seront d'autant plus fortes qu'un certain nombre de personnes qui pensaient que l'emploi n'était plus pour eux vont devoir s'y atteler. Et vous avez raison Mathieu, il va falloir aussi travailler tous les autres sujets. Alors il y a peut-être une chance, même si beaucoup de ces métiers ne sont pas des métiers télétravaillables, entre guillemets, il y a quand même l'aspect de la mise à distance du travail qui est nouvelle depuis 2-3 ans, qui fait que toutes les contraintes que vous évoquiez sur le transport, sur le logement, sur la garde d'enfants, elles existent toujours, mais elles commencent un petit peu à se réduire mécaniquement.
Allez-y Mathieu Plane, oui.
Non, je partage ce qui a été dit, mais par contre, ce qu'on exclut un peu, dans le panorama un peu global du retour plein emploi, c'est la question d'environnement macroéconomique. Et vous pouvez faire les prévisions que vous voulez, aujourd'hui, au regard de la croissance, éventuellement, y compris si on a une réforme des retraites qui nécessite d'intégrer plus longtemps des personnes en emploi, c'est-à-dire des gens qui partaient plus tôt devront devoir travailler plus longtemps, donc vous avez un choc aussi de population active. Si vous amenez aussi des personnes qui n'étaient pas sur le marché du travail, avec une croissance modeste comme on l'attend, et les pertes de productivité qu'il y a eu, vous n'avez pas un scénario mécanique de retour au plein emploi à 5%. Ce que je veux dire, même ce qu'on attend, c'est plutôt une hausse du chômage.
Oui.
En réalité.
Bah, oui.
Ce qui n'est pas un mauvais chômage, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui, de toute façon, n'étaient pas comptés dans le chômage, mais qui souhaitaient travailler. En fait, il vaut mieux les avoir, entre guillemets, sous le coude pour essayer de les aider, plutôt que de les exclure. Mais par contre, statistiquement, il va falloir expliquer que tout ça n'est pas simple et que le 5% n'est pas un vrai 5%. Voilà.
La semaine de 4 jours. Est-ce que
ça fait le lien.
Oui, mais la semaine de 4 jours, alors elle était un peu erronée la façon dont je vous ai présenté le sujet hier, parce que en fait Accenture a engagé il y a déjà un certain temps la possibilité pour ces 10 000 salariés en France de travailler 4 jours et non 5, et l'info c'était qu'aujourd'hui il y en a à peu près 10% chez Accenture qui ont décidé de passer à la semaine de 4 jours. C'est lié, vous disiez, Gaël Sliman.
Oui, c'est lié.
Peut être tentant la semaine de 4 jours, mais...
Alors, c'est lié, c'est très favorablement accueilli sur le papier, en tout cas sur les mises en pratique, il faut voir chaque cas particulier, mais dans l'opinion, quand vous faites des enquêtes et que vous demandez aux Français, aux salariés comment ils perçoivent la semaine de 4 jours, ils y sont très favorables. Alors, ils y sont d'autant plus favorables qu'on est au niveau très global, macro ou théorique. Quand on rentre un petit peu plus dans le dur, en gros, vous êtes entre les deux tiers et les trois quarts selon les enquêtes qui vous disent « oui, c'est super, j'adorerais dans ma boîte ». Bon, ok, mais par contre, il faudra vraiment travailler le même nombre d'heures sur 4 jours que ce que vous faisiez sur 5. Ah, ouais, c'est peut-être un peu tendu, et là, on tombe à 50, 55, 57% selon
les enquêtes. Mais c'est pas 4 jours payés 5, hein, c'est 4
oui,
jours,
mais
on
sait
c'est 4 jours payés 5, mais il faut travailler comme 5.
Il faut travailler
oui,
comme 5.
Voilà.
Et
enfin,
ensuite...
C'est pas les 35 heures du début des années 2000, voilà.
Voilà. Ensuite, c'est quand même globalement bien accueilli par les Français ou par les salariés, même si y a des petits bémols. Et après, il faut regarder dans le détail ce que nous disent les uns et les autres. Par exemple, pour les personnes pour les personnes jeunes, on y est très favorable. Pour les personnes qui ont des enfants à garder, eh ben, c'est parfaitement ambivalent. S'ils peuvent concilier dans leur couple la gestion de la garde d'enfants, ils vous disent bah, c'est génial, 4 jours, je signe. Et puis si au contraire, ils doivent être rentrés à une certaine heure pour pouvoir récupérer les enfants, c'est injouable.
La semaine de 4 jours, Maya.
Oui, c'est très intéressant. Et ça reprend les débats qu'on a eus sur le télétravail pendant la période Covid, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un arbitrage entre la solitude ou l'individualisation au travail et le travail collectif. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est de dire on va se remettre ensemble, on est ensemble les 4 jours, donc en fait, on ne désorganise pas les liens sociaux, on ne désorganise pas le travail coopératif, collaboratif au sein de l'entreprise. Et donc, on se réharmonise, on se recorde sur ces 4 jours-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en termes d'insertion dans le monde du travail. Pardon. En revanche, et vous l'avez dit, ça pose la question en fait, de ne jamais couper. Hein. C'est-à-dire, ces 4 jours-là qui restent, on est en esclavage. Quoi. J'exagère un peu juste pour provoquer, mais on voit bien, il n'y a plus de temps de travail en fait, en réalité. Hein. Il n'y a plus de rupture. Le droit à la déconnexion numérique, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire, on vous appelle combien de temps, à quelle heure, etc. Donc c'est aussi une organisation de ces 4 autres jours-là. Il y avait eu tout un tas de débats, vous avez évoqué les 35 heures, au moment des 35 heures, sur les 32 heures
oui.
et pas les 35.
Oui, 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 bien sûr.
Et,
c'est ressorti pendant la campagne, d'ailleurs,
j'ai retour.
Voilà, et il y avait eu des travaux aussi pour dire, ce serait bien que dans le collectif, et j'aimerais bien voir les entreprises, si elles expérimentent ce genre de choses, avec des travaux de groupe, où, en l'absence de l'un, c'est le binôme qui reprend le travail, et donc il y a une passation d'informations, un échange, de la collaboration interne qui permettent en fait de répondre à cette solitude en fait, face au travail.
Parce que cette histoire des 4 jours à l'époque avait un lien avec la lutte contre le chômage qui était la priorité absolue.
Bien sûr.
Et avec l'idée qu'en gros, c'était pas aussi simpliste qu'on partageait le travail et qu'avec un quart de temps en moins pour ceux qui n'étaient plus présents ce jour-là, ça pouvait faire une personne en plus, enfin un quart de personne en plus dans l'entreprise.
Oui, la semaine de 4 jours, et oui, Mathieu Plane.
Non, mais oui, justement, parce que je pense que le aujourd'hui, on n'est pas là-dessus sur cette semaine de 4 jours, sur une question de partage du travail. L'idée du partage du travail de la fin des années 90, c'est de dire, effectivement, on va réduire le nombre d'heures travaillées, il y aura des gains de productivité, on allège les cotisations, on flexibilise, mais en contrepartie, vous allez créer des embauches pour compenser.
Exactement.
Parce que les gains de productivité.
C'était le pari de départ, oui.
Alors que là, la semaine de 4 jours, c'est des gains de productivité, en fait, qui seraient énormes, parce qu'en fait, il faut faire 20%. De plus d'activité en 4 jours. En gros, enfin, vous devez faire en 5 jours ce que vous faites en 4 jours. Donc, en fait, vous ne partagez pas le travail si vous voulez être payé 5. Donc, du coup, la question, au fond, c'est du côté, à mon avis, des entreprises, c'est plutôt peut-être une demande des salariés à concentrer leur activité sur quelques jours, quitte à faire la même chose, en s'organisant peut-être mieux. Et on le retrouve avec la question du télétravail, notamment. C'est, est-ce que c'est un élément d'attractivité aussi pour certains jeunes, pour des salariés, de dire, est-ce qu'on préfère pas finalement travailler beaucoup, mais que 4 jours, plutôt que d'avoir des semaines à rallonge, peut-être moins efficaces, quoi. Et ça, je pense que c'est un débat qui n'est pas un débat macroéconomique, hein, mais qui est plutôt un débat de société ou d'organisation du travail dans les boîtes.
Bon, après, ça dépend des entreprises. Moi, par exemple, je ne peux pas faire 1h15 d'émission tous les jours en me disant je ne vais pas la faire le vendredi.
Mais tout le monde n'est pas Nicolas Dose.
Non, mais voilà. Non, mais,
je vois bien, il y a bien sûr les métiers qui peuvent pas le faire.
Sinon, je fais 1h15, donc 20, bah, voilà, je fais 20%.
Ça ne marchera pas bien.
Sachant que c'est intéressant le lien avec le télétravail, parce que d'abord, ce n'est pas exclusif. On peut être sur 4 jours et dont la moitié en télétravail. En théorie, il n'y a pas de contre-indication. Et sur le télétravail, on observe les mêmes phénomènes clivants, comme on dit en sondage. C'est-à-dire que vous avez une appétence, une adhésion pour le télétravail. Au moment de la crise Covid, où on a été confiné, où il fallait être constamment en télétravail, on enregistrait dans les enquêtes une césure entre ceux qui sont à l'aise dans leur travail, qui maîtrisent les codes et qui sont contents de venir un jour ou deux par semaine, pas moins, parce que sinon on est coupé complètement. Et puis les jeunes, ou en tout cas les nouveaux dans leurs emplois, qui sont complètement largués. Parce qu'ils arrivent dans une boîte et en fait ils ne voient jamais personne et ils sont en Teams ou en Zoom toute la journée. Et pour eux, c'est très perturbant.
Mathieu, allez-y, Mathieu.
Du coup, non, mais Emma, tu disais, il nous reste 2 minutes. C'est qu'en plaisantant, effectivement, vous ne pouvez pas faire 4 émissions alors que vous en visez 5 en augmentant l'émission. Mais c'est vrai aussi, par exemple, dans le bâtiment.
Ben oui.
Bâtiment, en fait, comment vous arrêtez les chantiers un jour où il va falloir recruter d'autres personnes, donc ça devient très compliqué dans l'industrie, dans beaucoup de secteurs. Donc c'est certains secteurs de services qui sont plutôt flexibles dans l'organisation où il y a beaucoup d'autonomie, d'indépendance en fait des salariés qui peuvent le faire, mais en fait ça représente pas forcément une majorité de population, hein, de travailleurs, quoi.
Et c'est aussi les grandes entreprises.
Les grandes entreprises.
Les grandes entreprises. Et juste un point, si on a le temps, oui, c'est oui, un jour avec les enjeux de climat. Parce que ces questions de 4 jours avec 3 jours reposent les transports, la mobilité. Et donc, si on se retrouve à repartir dans des choses pas denses en termes d'urbanisation, bah on a à nouveau un problème climatique. Alors qu'on devrait, on le sait bien, densifier les villes, réduire les mobilités ou favoriser les mobilités douces, comme on le dit maintenant. Donc ça, c'est des enjeux. On voit bien qu'on est à une étape en fait, où des contradictions vont devoir être réglées entre cette organisation du travail et les enjeux de résidence et de mobilité.
Mais les doctrines changent, hein. On parlait des doctrines de l'OCDE au début, et puis effectivement, la relation au travail a considérablement changé. J'en avais parlé avec des DRH sur, on dit toujours la génération Z, moi ça m'énerve un petit peu ce terme de génération Z, mais effectivement les attentes aujourd'hui des jeunes recrues sont quand même tout à fait particulières. Jusqu'à certains qui veulent du 100% télétravail.
Oui, et alors certaines générations sont même prêtes à gagner moins pour travailler moins. Oui. C'est un peu différent. Oui. Parce que là, c'est réorganiser pour gagner la même chose.
Donc, peut-être qu'on peut gagner une présidentielle avec
est-ce
ça.
Alors que là, oui, on change.
Travailler moins pour
gagner
moins.
Ça, c'est cool. Ah ben, tiens, voilà une bonne idée.
Bah, ça, peut-être ça fera écho pour la jeune génération.
La fin du travail, c'était le slogan d'une précédente campagne.
Bon, il y a un auditeur qui s'appelle Romain, il me dit sur la simplification, on pourrait remplacer pas mal d'administrations par ChatGPT. Je ne sais pas.
Il ne faudrait pas que ça bug. Hein,
ouais, voilà. Maya Bakash-Bovalet, merci d'avoir été là pour le Cercle des économistes. Mathieu Plane et Gaël Slimane pour le baromètre Odoxa AJP. Rendez-vous demain 9h.